France Inter. Ali Badou, Marion Lourd.
Le journal. Corinne Audouin, bonjour Corinne.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Les prix à la pompe repartent à la hausse. C'est le coût du baril de brut qui fait grimper la facture. En cause, les tensions géopolitiques entre Mer Rouge et Ukraine. Explication dès le début de ce journal. Il séduit des déçus de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron. Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste, donné troisième des intentions de vote européennes. Il débattra à 8h20 sur France Inter avec le candidat du RN, Jordan Bardella. Nous reviendrons aussi sur la mort d'O.J. Simpson hier aux États-Unis. La personnalité du sportif acquitté du meurtre de son ex-femme divise toujours l'Amérique. On reviendra aussi sur le passage de la tempête Pierrick à Cayeux en Picardie, où on s'affaire à remettre la plage en état. Et puis sur la défaite de l'OM 2-1 face au Benfica Lisbonne, mais ça aurait pu être pire.
France Inter. Vous l'avez forcément constaté par vous-même, si vous roulez à l'essence, le carburant coûte à nouveau très cher, Corinne.
Pas loin de 2 euros le litre à la pompe pour le sans-plomb, 1,79 € pour le gazole. Sans atteindre les records d'il y a 2 ans, les prix du brut flambent, attisés par les conflits de la planète, du Proche-Orient à l'Ukraine. En quelques semaines, le baril de Brent est passé de 75 à 90 $. Pour plusieurs raisons, Maxime Deps, liées donc à la situation internationale.
En cause, les tensions au Moyen-Orient, par lequel transite une grosse partie du pétrole arrivant en Europe. Une mer rouge entravée pour les bateaux, les tankers, c'est de l'essence en moins qui arrive jusqu'à nous. Explication numéro une, mais qui n'est pas la seule aux tensions actuellement à la pompe. Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine.
Il y a en Russie, on en parle beaucoup moins, mais c'est également un sujet d'attention, des attaques assez régulières de l'Ukraine sur des infrastructures de raffinerie, ce qui réduit de l'ordre de 15% la capacité de raffinage russe, et donc dans un marché dans lequel il y a beaucoup d'interdépendance, ça peut expliquer également des tensions.
Tout ça, mis bout à bout, fait forcément mécaniquement grimper les prix.
Puis par ailleurs, il faut garder à l'esprit que l'OPEP+, c'est-à-dire schématiquement l'Arabie Saoudite, la Russie et leurs alliés, ont une politique très restrictive depuis plusieurs années. Leur idée étant de maintenir le prix du baril suffisamment haut de telle manière à couvrir les besoins budgétaires, et notamment pour la Russie, c'est absolument essentiel, de ne pas laisser le prix du baril s'effondrer.
Sans compter que le marché du pétrole est un marché d'anticipation, certains acteurs peuvent être tentés d'acheter du pétrole maintenant, avant, sait-on jamais, que la situation ne se dégrade encore, ce qui a pour effet dans ces cas-là aussi de tirer les prix vers le haut.
Est-ce la fin des HLM à vie ? Le gouvernement dévoile ce matin dans Les Échos son plan pour le logement social. Près de 2 millions de ménages sont en attente d'attribution d'un HLM. D'après le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, le projet de loi en préparation prévoit d'exiger des bailleurs sociaux une évaluation régulière et obligatoire de la situation personnelle, financière et patrimoniale des locataires du parc social.
Ils sont donnés respectivement en tête et à la troisième place des intentions de vote aux élections européennes. Jordan Bardella et Raphaël Glucksmann débattent sur Inter ce matin.
Oui, ce sera dans 2 heures. La tête de liste RN et celle de la liste PS Place Publique confronteront avec vous, Ali et Marion, leur vision de l'Europe. À gauche, Raphaël Glucksmann progresse de façon constante depuis 2 mois, donné aujourd'hui de 12%, aujourd'hui autour de 12% des intentions de vote. Le candidat recrute autant d'anciens électeurs de Jean-Luc Mélenchon que d'Emmanuel Macron. Vérification sur le terrain avec ce reportage de Claire Flochel pendant un tractage de Place Publique et du PS, Place de la République à Paris.
Sortie incessante des bouches de métro, promeneurs, skaters, les militants distribuent le plus de tracts possible.
Bonjour, élection européenne le 9 juin, Raphaël Glucksmann.
Ils sont une vingtaine et ils ont voté pour la plupart Jean-Luc Mélenchon en 2022, comme Abbesse, 60 ans. Aujourd'hui, pourtant, il a changé d'avis.
Il y a la posture de Mélenchon qui me choque. Il me fait peur. C'est quelqu'un à qui je ne donnerais pas le pouvoir.
Pourquoi ? Eh bien parce que le leader insoumis n'est pas à la hauteur sur les sujets internationaux, c'est ce qui revient le plus. Frédéric, 20 ans, explique.
La guerre entre Israël et la Palestine, il a eu des positions vraiment très limites. La France insoumise, c'est pas un parti digne, je trouve. Donc moi, non, aujourd'hui, je voterai vraiment plus pour eux.
Sur le féminisme, le bas blesse aussi, selon Nolwenn, 21 ans.
C'est vrai que la gestion de l'affaire Quatennens m'a énormément déçue. Quand on a un vrai programme féministe et qu'après, on n'est pas capable de gérer ces affaires-là d'une manière convenable, ça pose question.
Et puis, il y a les militants plus rares qui ont voté Emmanuel Macron lors d'un premier tour. Luc, à 26 ans, a fait ce choix en 2017 et en est donc revenu.
Aujourd'hui, il s'est droitisé. Il ne mène pas la politique pour laquelle il s'est engagé. Il a tenu des propos qui parfois pouvaient sonner de de gauche et qui en réalité ne se trouve pas transformé dans la politique qu'il mène. Et ça, c'est vraiment plus que décevant, c'est rageant.
Raphaël Glucksmann, lui, est sincère d'après les militants et surtout, il rassemble, conclut Frédéric.
Glucksmann, c'est quelqu'un qui fait pas peur à être plus modéré. Il y a un vrai espace entre Mélenchon et Macron et il faut le prendre.
C'est en tout cas en bonne troisième place que se trouve la liste PS Place Publique dans les intentions de vote.
Claire Flochel, la tension continue de monter au Proche-Orient autour des menaces de représailles de l'Iran contre Israël. Pour raison de sécurité, les États-Unis annoncent qu'ils restreignent les mouvements de leur personnel diplomatique en Israël, ainsi que des membres de leur famille. Personnage incontournable de la culture américaine, O.J. Simpson s'est éteint hier, à l'âge de 76 ans. L'ex-star de football américain avait vu sa vie exposée en direct lors de son procès pour le meurtre de son ex-femme et d'un ami de celle-ci. Son acquittement avait illustré les divisions raciales dans le pays, divisions qui perdurent en partie avec sa disparition. C'est un reportage de Loïc Piala.
Hier, sur la plage de Long Beach, au sud de Los Angeles, pas grand monde ne voulait parler d'O.J. Simpson devant un micro. Le personnage, un temps adoré par l'Amérique, fait polémique depuis 30 ans. Marcus, afro-américain et ballon de basket à la main, préfère se souvenir de l'athlète.
Je ne sais pas trop pour sa vie privée, mais si on parle du joueur, de quelqu'un que j'ai admiré dans un cadre sportif, oui, O.J. était une légende. Sa disparition me rend triste.
Même si lui s'était tenu à l'écart de ses considérations dans sa carrière, ses avocats avaient fait d'O.J. Simpson une sorte de figure des droits civiques pendant le procès. Une stratégie payante, juste après l'affaire Rodney King. L'acquittement avait confirmé les divisions raciales dans le pays. 80% des Noirs l'estimaient alors innocent, quand trois quarts des Blancs le pensaient. Et le pense encore coupable, comme Dennis, les muscles couverts de tatouages et le bouc fourni.
Il y a beaucoup de spéculations des deux côtés. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Moi, je crois qu'il a commis ce crime et qu'il a échappé à la justice. Mais je ne vais pas dire du mal d'un mort. O.J. est parti et il rendra des comptes à Dieu comme nous tous.
L'écart entre les deux communautés s'est un peu réduit depuis. En 2017, 6 Noirs sur 10 considéraient O.J. Simpson innocent. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Un retour en France, où c'est l'heure du nettoyage après la tempête à Cailleux-sur-Mer, sur la baie de Somme, 3 jours après le passage de Pierrick. La plage a souffert de ce phénomène météo très violent. Alors à quelques semaines du début de la saison, le 1er mai, c'est la course contre la montre pour réinstaller tous les équipements détruits par la tempête. Jeanne Dossé de France Bleu Picardie.
Michael s'active sur le front de mer avec 7 autres agents.
On nettoie ce que la plage a ramené sur le boulevard de Cailleux. Tout ce qui est galets, sable, avec les vagues, le vent, même les planches qui sont arrivées sur le bord de la route.
La tempête a emporté plus d'un kilomètre des chemins de bois tout juste installés sur la plage. Les planches sont désormais empilées en petits paquets sur les galets, car la priorité c'est de renforcer la digue. Jean-Claude Desanglois, responsable des services techniques de Cailleux.
Les services de l'État estiment à peu près 50 000 tonnes de galets à recharger. Ça va être fait théoriquement milieu de semaine prochaine. À partir de là, il faut qu'on réinstalle la plage, donc on renivelle la plage, on réinstalle les planchers. Une fois que les planchers sont réinstallés, on pourra installer les cabines.
Et dans le même temps, Cailleux doit chiffrer les dégâts.
Réparation des planchers, il y a à peu près 300 mètres de fichus. On avait acheté 800 mètres de câbles neufs pour les haut-parleurs de la SNSM. Avec les galets, ça a roulé, donc le câble il est fichu, il faut recommander du câble. On a des bancs qui sont cassés, on est entre 6 et 8 000 euros.
Avec tous ces travaux, les célèbres cabines ne seront pas sur la plage le 1er mai, déplore le maire de Cailleux-sur-Mer, Jean-Paul Lecomte.
Le lancement de la saison va prendre un peu de retard, mais ça n'empêche que courant mai, je pense qu'on arrivera quand même à avoir la possibilité d'installer nos cabines. On fera tout pour.
Autre chantier à venir, la route blanche, complètement fermée jusqu'à nouvel ordre. La voie cyclable est très dégradée sur environ 200 mètres.
Reportage Jeanne Dossé de France Bleu Picardie.
Et puis Corinne, les défaites s'enchaînent pour les footballeurs marseillais.
Et battu 2-1 par le Benfica Lisbonne hier soir en quart de finale aller de la Ligue Europa, mais ça aurait pu être pire puisque l'OM garde ses chances de qualification pour les demi-finales grâce au but de Pierre-Emerick Aubameyang. Jean-Pierre Blimeau y était.
Devant leurs supporters qui ont finalement pu entrer au stade, les joueurs marseillais se sont donné le droit d'espérer. Et pourtant, dans les tribunes, Alex n'en menait pas large, à 2-0 pour le Benfica.
C'est sûr qu'à 2-0, on aurait pu voir le match tourner et puis que ça tourne à la catastrophe. Finalement, 2-1, on se dit qu'on a rendez-vous jeudi au Vélodrome et puis on va repousser derrière eux pour aller chercher la qualification. Quoi.
À chaud, l'entraîneur Jean-Louis Gasset mesurait l'importance de ce but inespéré qui pourrait tout changer.
Les 30 dernières minutes et le but nous laissent beaucoup d'espoir pour le match retour.
C'est encore Pierre-Emerick Emerick Aubameyang qui s'est distingué en marquant son 25e but cette saison, son 12e en Coupe d'Europe, sur une passe d'Azeddin Ounahi.
On sait que Aubameyang, avec n'importe quelle occasion, il peut marquer. Maintenant, voilà, le match retour, on va essayer d'utiliser Aubameyang le mieux possible, de lui mettre les ballons qu'il faut pour qu'il marque.
Une défaite, oui, mais pas du tout rédhibitoire, confirme le milieu de terrain Amin Harit.
Il y avait énormément de confiance à la fin du match dans le vestiaire et je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir.
L'OM garde donc espoir, mais perd à nouveau un défenseur, Quentin Merlin, blessé à la cheville.
Et le match retour au stade Vélodrome, c'est donc jeudi prochain.
France Inter, 6h10, l'esprit sport. Bonjour Cédric Guillaume.
Bonjour.
Ce matin, Cédric, on mêle culture et sport dans l'esprit sport.
Oui, alors que nous allons passer à Lille le cap symbolique des 100 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ce sera mercredi prochain, le 17 avril. Vous avez bien noté la date. Hein.
Date on est prêt.
Par les élèves de l'école du Louvre pour proposer des podcasts sur le sport et les Jeux dans le cadre de l'Olympiade culturelle. Alors 100 élèves sur les 1800 que compte l'établissement vont retracer l'histoire des Jeux à travers 100 podcasts. Il y en aura un par jour jusqu'à la cérémonie d'ouverture. En 3 minutes chrono, eh bien, les étudiants deviennent apprentis reporters. Voici à quoi ça ressemble.
À vos arts, prêt, partez.
Vous attendez les Jeux ? Avec les élèves de l'école du Louvre, découvrez chaque jour, en 3 minutes chrono,
un lieu,
une œuvre,
un monument parlant de sport,
d'art
et d'olympisme.
Et Cédric, il y a plusieurs thèmes pour ces podcasts.
Oui, il y en a qui sont consacrés à l'art, au patrimoine des Jeux. Il y en a d'autres qui proposent de découvrir ou de redécouvrir des sites qui ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques. On peut entendre aussi des histoires de sport. Ça mêle art, sport et olympisme.
Bonjour, je m'appelle Lynn et aujourd'hui je vais vous parler de rugby, d'art déco et de corps idéalisés.
Alors c'est présenté comme un exercice grandeur nature pour les étudiants, encadré évidemment par les équipes pédagogiques de l'école du Louvre, et ce sera disponible et à découvrir en streaming dès le 17 avril sur plusieurs plateformes.
Spotify, Deezer, Apple Music et bien sûr l'appli Radio France, l'esprit sport de Cédric Guillou, à suivre le grand angle puis esprit pratique.